À Lyon, vous écoutez Lyon Première.
Lyon Première.
Lyon Première, l'invité politique du samedi avec Lyon Positif. Frédéric Duval.
Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1ère. Bienvenue Najat Vallaud-Belkacem, merci beaucoup d'être là.
Bonjour, merci à vous.
C'est un plaisir de vous accueillir. Vous êtes conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes. Vous êtes évidemment ancien ministre, vous avez été élu à Lyon, dans cette ville que vous connaissez bien, aimez bien, candidate aux législatives à Villeurbanne, et présidente du groupe au conseil régional. Donc on va parler avec vous évidemment de la région, des élections européennes, de la place du parti, de ce que devient l'EPS, enfin tout un ensemble de sujets comme ça. Mais avant, vous le savez, on commence toujours par des questions d'actualité. Et il y en a un certain nombre qui, d'ailleurs, je suis certain, vous concerne assez directement par rapport à vos anciennes fonctions. La première concerne la constitutionnalisation de l'IVG, qui, je suppose, pour vous, était un moment important. Est-ce que c'est vraiment historique? Est-ce que c'était nécessaire? Et est-ce que ça représente quelque chose pour vous par rapport à tout ce que vous aviez fait avant?
Oui, c'était historique, nécessaire, un grand moment d'émotion, et ça représente énormément, à la fois pour la France, les Françaises, mais aussi pour le monde et toutes celles qui nous regardent, franchement, avec des yeux pleins d'envie et d'admiration aujourd'hui, hein, sur ce sujet, parce que les combattantes pour le droit à disposer de son corps, elles sont nombreuses à travers le monde. Dans des pays très nombreux, c'est absolument interdit, hein, vous pouvez aller en prison. Je prends souvent cet exemple que les gens n'ont pas du tout en tête. Prenez un pays comme le Sénégal, par exemple. Savez-vous que près de la moitié de la population féminine qui est incarcérée au Sénégal l'est pour avoir pratiqué une IVG? Donc c'est des années de prison, c'est des vies gâchées. Et donc il y a des combattantes à travers le monde qui soudain se disent « Mais tiens, en France, quand même, ils l'ont mis dans la Constitution,
la France,
c'est énorme !»
La demeure un phare, un modèle, un repère
c'est
pour
rarement,
beaucoup.
Ouais. Honnêtement, ces derniers temps, on avait l'impression qu'on l'était rarement, ce phare. Et là, c'est vrai, c'est un peu comme ça qu'on est apparu. Donc, beau moment, bravo à tous ceux, toutes celles qui ont apporté leur pierre.
Vous y aviez contribué, vous, comme ministre, vous y aviez commencé aussi à mettre en place un certain nombre de choses.
Absolument, parce qu'en fait, c'est très instructif. C'est comme ça que les droits politiques, sociaux, économiques s'acquièrent. C'est par des combats qui généralement prennent des années et des années. Donc, il faut avoir l'humilité de s'inscrire dans les pas des prédécesseurs et de soutenir les successeurs qui vont accepter à leur tour d'y mettre une touche. Et moi, c'est vrai que je me suis inscrite dans les pas de mes prédécesseuses. Et par exemple, quand en 2014, j'étais ministre des Droits des Femmes, j'ai fait en sorte qu'on mette fin notamment à toutes ces entraves à l'IVG constituées par des groupes qui, sur les sites internet, vont faire du prosélytisme anti-IVG, que ce soit réellement condamné par la justice.
Se mettre dans les pas d'eux, mais peut-être pas forcément le récupérer. Est-ce que vous avez vu passer ce visuel, moi qui personnellement m'a un petit peu interpellé à un moment, de Mathilde Panot qui s'était mise sur les réseaux sur une photo au même titre que Simone Veil en disant on l'a fait.
Oui.
Est-ce que ça vous a un peu heurté? Est-ce que vous avez compris qu'elle s'inscrit dans cette continuité ou c'était pas un petit peu too much?
Non, franchement, moi je pense que en tout cas c'est pas un sujet qui mérite qu'on s'y attarde parce que il faut reconnaître à Mathilde Panot qu'elle a porté le sujet. Vraiment, il y a un moment où c'était pas du tout évident.
Donc elle a vraiment agi, c'était bien qu'elle ait envie de le dire.
Moi okay. Je pense qu'il faut lui reconnaître
ça. Pour vous entendre.
Après, je vois un petit peu les émotions contraires que tout ça provoque. Je pense que vraiment,
c'est pas là
l'essentiel. Voilà.
Sur l'essentiel, toujours sur ce sujet, une petite dernière question, puisqu'on a un certain nombre de partis politiques qui à un moment on dit, bah voilà, en fait, ça servait pas à grand chose, ou qui ont changé d'avis d'ailleurs sur le sujet, en disant, bah, fallait peut-être faire du concret, ou c'était pas utile, ou personne ne le remettait en cause. Pour vous, il y avait vraiment une nécessité. Hein, on est bien d'accord.
Cet argument de personne ne le remettait en cause, il est, pardonnez-moi, mais profondément stupide. Hein. On attend quoi? On attend qu'il soit remis en cause. C'est pas comme si les autres pays ne nous renseignaient pas au quotidien. L'arrivée d'un Trump aux États-Unis ou d'un Javier Milei en Argentine, pour ne citer que, ou d'un Orban en Hongrie, etc., vous démontre bien à quel point ça va vite de détricoter tous les droits. Et pas simplement les droits des femmes. Hein. Je le dis aux messieurs qui nous écoutent. Ne croyez pas que vous serez à l'abri. Quand on remettra en cause les libertés publiques, les libertés fondamentales, qu'on pourra, y compris, vous incarcérer sans que vous ayez accès à un avocat, etc., parce qu'on aura laissé des gens qui sont anti-liberté arriver au pouvoir, bah, vous comprendrez que ça va très très vite de détricoter. Donc, ce qui se passe avec le droit à l'IVG, c'est que, certes, peut-être aujourd'hui, personne ne portait de projet de loi pour le remettre en question, mais demain, on est à l'abri de rien, et c'est bien d'anticiper en politique.
Autre sujet d'actualité qui, je suppose, peut vous faire réagir, parce que ça concerne le lien étroit que vous avez avec l'éducation, c'est ce qui s'est passé il y a quelques jours à Sciences Po, dans un amphithéâtre où il y a eu une sorte de manifestation où l'amphithéâtre a été débaptisé pour être appelé Amphigaza, où on a interdit l'entrée à un certain nombre d'étudiants au prétexte qu'ils étaient juifs. Est-ce que vous comprenez ou est-ce que c'est inacceptable ce qui s'est passé?
Alors moi, il y a un sujet vraiment sur lequel j'attire l'attention pour commencer. C'est que dans ce monde où chacun se renvoie à la figure des informations dont on ne comprend jamais si c'est des opinions ou des informations, il faut toujours commencer par vérifier la véracité des informations. Je constate par exemple, comme ça, hein, j'ai pas eu d'informations à la première source, mais en lisant simplement ce qui se dit sur les réseaux sociaux, je constate qu'il y a deux versions de cette affaire. Entre ceux qui disent telle étudiante a été empêchée d'entrer, et puis ceux qui disent absolument pas, on a demandé de ne pas être filmé. Bon, moi je n'y étais pas. Mais la première chose qui m'interpelle, c'est comment est-ce que tant de responsables politiques en particulier, je parle même pas des médias, mais aussi expriment
oui, s'en sont emparés,
de l'émotion, y compris
plainte.
Le président de la République lui-même, etc., sans avoir fait appel à l'institution elle-même, Sciences Po quand même, qui a une direction, enfin bon, sa direction est un peu en difficulté en ce moment, mais qui a quand même des responsables, pour lui demander de tirer cette affaire au clair. La première chose à faire quand même dans ces cas-là, c'est que ce soit les responsables de l'institution qui tirent cette affaire
souvent
au clair.
Souvent, il y a un emballement un peu médiatique,
mais
c'est ça que vous racontez aussi, qu'il faut retomber sur les faits.
Et l'emballement sur un sujet comme celui-là est dramatique. Franchement, il faut qu'on arrête d'être aussi irresponsable. Je veux dire, à mon sens, le seul propos que puissent porter des responsables politiques, s'ils veulent bien être responsables, c'est qu'on peut en même temps, pour une fois je vais utiliser le « en même temps », être horrifié par ce que le Hamas a commis le 7 octobre dernier à l'égard des Israéliens et en particulier des Israéliennes, parce que le corps des femmes dans ce sujet était quand même un gros, gros, gros sujet. Et horrifié par ce que subit la population de Gaza depuis des mois et des mois. Je veux dire, c'est ça, on est les deux à la fois. Et c'est insupportable de voir tant de gens ne pas tenir ce discours.
Le sujet, il est aussi derrière, au-delà de l'incident dont effectivement on ne connaît pas tout, mais de voir que sur ce sujet dramatique, terrible, etc., on a l'impression qu'il y a une impasse totale. C'est-à-dire que les gens ne se comprennent plus et qu'on a du mal à imaginer la solution.
Voilà, c'est pour ça l'emballement dont vous parlez. En fait, l'emballement, il naît lorsque les gens se réfugient dans des bulles. Vous savez, des bulles vraiment cognitives où on ne voit plus les autres.
Ce que font les réseaux aussi.
Beaucoup. Exactement, et les réseaux y contribuent énormément. Mais de plus en plus, un certain nombre de médias aussi, puisque vous avez désormais des médias idéologisés qui ne vous présentent qu'une version des affaires, etc. Donc, ce mécanisme des bulles, il installe des biais cognitifs, honnêtement, à tel point qu'on se dit que les gens ne vont plus être capables, non pas seulement de se parler, mais de se comprendre, de s'entendre. Et donc, il faut absolument que le politique, parce que moi, je continue à croire à la noblesse du politique, organise la rencontre entre les gens.
Important. Un autre sujet un tout petit peu plus local, moins grave, mais en même temps qui justement peut-être va concerner le politique ou la vision que les citoyens ont de la politique. Il y a quelques jours, il y a eu visiblement des perquisitions et des auditions à la mairie de Lyon auprès de l'entourage de Grégory Doucet pour vérifier la véracité d'un certain nombre d'emplois. On sait qu'à la région, il y a eu un certain nombre de sujets aussi. On sait qu'il y a les assistants parlementaires au Parlement européen pour le Rassemblement national. Est-ce que vous pensez que ce genre de situation, et il n'est pas question de juger, mais simplement de se dire, est-ce qu'il n'y a pas une nécessité peut-être de transparence, d'efficacité pour ne pas que on jette le bébé avec l'eau du bain, qu'il y a un discrédit permanent sur la politique, en fait.
Oui, j'aurais tendance à ne pas tout mettre dans un même sac, justement. Je pense qu'il y a la nécessité de préciser, à l'échelle des collectivités locales, ce qu'on attend des chargés de mission, puisque c'est de ça qu'il est question avec la ville de Lyon en particulier, c'est-à-dire, grosso modo, cette frontière un peu difficile à définir entre l'administratif, le politique, Est-ce que quelqu'un,
technique, etc.
Voilà, le technique. Est-ce que quelqu'un qui travaille auprès d'un élu n'est là que pour mener à bien les dossiers de la collectivité ou aussi pour aider cet élu à communiquer, à exister, j'allais dire, dans l'espace public, sur les réseaux sociaux, etc. Oui, la question, elle n'est pas si simple, quoi. Autant il y a des situations dans lesquelles ça saute aux yeux, c'est évident, dans l'affaire des assistants parlementaires au niveau européen, par exemple, quand il s'agissait de personnes qui ne mettaient jamais les pieds au Parlement européen, n'avaient aucun contact avec la législation européenne ou la fabrique de la loi européenne, ça posait un problème. Autant, parfois, c'est un peu plus compliqué à trancher. Donc, je pense que ça nécessite de clarifier les choses et que c'est peut-être au législateur de s'en saisir. De toute façon, le législateur, je vais vous dire, devrait vraiment se saisir de cet aspect-là du fonctionnement de la démocratie qui consiste à se demander dans quelles conditions les élus travaillent, c'est ce qu'on appelle le statut de l'élu, dans quelles conditions leurs collaborateurs les accompagnent, c'est ce que vous évoquez maintenant.
Merci, on se retrouve dans une deuxième partie de notre émission pour parler région européenne et puis de votre rôle à la Fondation The One notamment. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission, l'invité politique le samedi de 11h à midi, toujours avec vous Najat Vallaud-Belkacem. Je rappelle que vous êtes conseillère régionale, présidente du groupe à la région Auvergne-Rhône-Alpes. On parlait avec vous de l'actualité, on va parler aussi évidemment de votre actualité, de votre engagement, puisque à côté de ce mandat, vous avez pris depuis quelque temps des fonctions à la Direction France d'une organisation internationale qui s'appelle The One. Est-ce que vous pourriez nous raconter en quelques mots ce que fait cette organisation et pourquoi ce choix ?
Oui, bien sûr. Ce choix, il est celui d'une activiste convaincue. En réalité, j'aurais un peu du mal à me couper totalement de ce qu'on va appeler rapidement l'engagement. La vie politique qui a été la mienne, un sens de l'intérêt général et du bien commun assez profond chez moi, fait que je peux pas juste me contenter d'être confortablement installée dans ma vie. Je me dis, il y a tellement de dysfonctionnements à résoudre, il faut y contribuer, il faut trouver des solutions, il faut aider, il faut... Et donc, du coup, dans cette recherche-là, il se trouve que j'ai eu l'occasion de faire la connaissance de cette organisation, ONG, One, qui est, vous savez, celle qui a été fondée par Bono, le chanteur de U2,
ah oui,
qui est une organisation internationale qui lutte contre l'extrême pauvreté dans les pays les plus en difficulté et qui cherche à extraire de cette situation toutes ces personnes qui vivent avec moins de $2 par jour et notamment à travailler sur la question de la santé, c'est-à-dire rendre accessibles des traitements qui permettraient à ces personnes de ne pas mourir de maladies qu'on sait soigner. Or, beaucoup d'entre elles continuent à en mourir. Bref, donc du coup, c'est une ONG de solidarité internationale. Et ça me fait beaucoup de... Enfin, c'est
de
vraiment...
bien.
Oui, j'allais dire, ça me fait beaucoup de bien. Non, mais vous avez raison. Parce que ça me permet de porter sur les fameux dysfonctionnements que j'évoquais un regard qui n'est pas exclusivement hexagonal, mais bien international. Or, vous savez, dans ce monde, on est tous embarqués dans un même bateau, en fait. Ce qui nuit à l'autre bout du monde finit par nuire à nous, vraiment. Et ce qui est intéressant dans ma position actuelle, c'est qu'en même temps, comme vous le savez sans doute, je préside une structure qui s'appelle France Terre d'Asile, qui accompagne, héberge, aide les demandeurs d'asile en France. Et donc, d'une certaine façon, j'ai l'impression d'être au deux bouts de la chaîne. C'est-à-dire que je vois cette situation d'extrême pauvreté en Afrique subsaharienne, en Haïti, dans des pays en conflit, etc. On cherche à aider en poussant les gouvernements du Nord, les institutions internationales à faire preuve de solidarité à l'égard de ces populations. Mais pour celles qu'on n'arrive pas à aider, il ne faut pas s'étonner que du coup, elles prennent le chemin de l'exil parce que l'extrême pauvreté, comme les persécutions, oui, ça vous pousse sur le chemin de l'exil.
Ce qu'on ferait tous, en fait. C'est aussi ça qui doit nous interroger. C'est que
absolument,
si on voulait sauver sa famille et sa vie, on ferait sans doute exactement la même chose.
Absolument. Et donc, du coup, tous les débats actuels, il y a eu la loi asile-immigration en France.
Oui, je suppose que vous étiez très au fait de ces sujets et qu'on a raconté beaucoup de choses un peu étranges, certainement.
Tous ces débats, grosso modo, qui consistaient pour l'essentiel à présenter ces exilés qui arrivent sur nos terres comme une menace, comme des indésirables, etc., sont complètement à côté de la plaque pour plusieurs raisons. D'abord parce que, comme vous venez de le dire, jamais vous n'empêcherez quelqu'un dont l'enfant est en train de mourir de faim de chercher à le sauver. Enfin, heureusement que ça fait partie de notre humanité commune. Et puis deuxièmement, le droit d'asile, en fait, un jour, peut-être qu'on en aura besoin pour nous-mêmes à l'aune du changement climatique. On voit que dans à peine quelques décennies, vous allez voir des villes entières dans lesquelles il sera plus possible de vivre, y compris en Europe. Et donc, à ce moment-là, on prendra le chemin de l'exil et on sera bien content qu'il y ait d'autres territoires plus accueillants. Donc, moi, je pense que, en fait, la politique ou l'engagement avec un grand E, c'est aussi cette capacité à voir plus loin, à prendre de la hauteur et à
se
anticiper.
Projeter
et
à loin se projeter. De ce qu'on disait, c'était à la fois du flux médiatique et de se rendre compte de la complexité des choses. Ce qui m'intéresse aussi peut-être par rapport à votre parcours d'engagement militant et politique, c'est aussi de s'apercevoir que, comme un certain nombre d'autres, hein, je pense à Benoît Hamon, Fessinga ou à Cécile Duflot, hein, y a des politiques qui ont fait le choix de l'associatif. Est-ce que vous y voyez comme un retour en arrière, comme une progression? Parce que souvent on vient de l'associatif vers le politique. Qu'est-ce que ça permet d'autre, de mieux ou de différent pour convaincre et avoir des vrais leviers en fait?
Moi, ce que je ressens, c'est que... Bon, d'abord, j'ai pas l'impression d'avoir quitté le politique.
Vous avez toujours un mandat, mais c'est intéressant de vouloir avoir les deux aussi, quelque part, peut-être.
Mais même, je veux dire, même en faisant ce que je fais chez One, chez France Terre d'Asile, j'ai pas l'impression d'avoir quitté le politique. Parce que le politique, si vous me le permettez, est une chose trop importante pour être laissée entre les mains des seuls élus. C'est vraiment... Ou des seuls partis politiques. On est tous concernés par le politique. Donc... ce que je constate et ce qui me maintient, je ne sais pas encore pour combien de temps, mais pour un certain temps tout de même, dans cet univers de la société civile et des ONG, c'est que depuis quelques années, malheureusement, les élus ou les responsables politiques, s'ils veulent se faire entendre de l'opinion, doivent faire appel davantage à des émotions négatives qu'à des émotions positives. C'est ainsi. Regardez, hein, on peut les prendre tous les partis, vous allez voir que ils jouent pour l'essentiel sur la peur, sur l'envie, sur la menace climatique, etc. Donc, la peur de l'autre, je veux dire, voilà. Et donc, en fait, c'est des émotions négatives qui permettent aujourd'hui de retenir l'attention et voire de remporter des élections. Sauf que, on a besoin d'émotions positives aussi. Venez aider, soyez solidaires, on peut construire un monde meilleur, etc. On a l'impression que le politique n'arrive plus à porter ce discours-là. Les ONG, la société civile, elle le fait. Et d'ailleurs, la meilleure illustration de cette plus grande capacité à porter ce discours positif, c'est que on attire beaucoup plus les jeunes générations. C'est impressionnant, je veux dire, les jeunes désertent les partis politiques au moment où, au contraire,
ils se mobilisent pour la solidarité, l'empathie, etc.
Voilà, à nos côtés, et vraiment, vous avez généralement des files de gens qui sont intéressés par le travail dans les ONG ou le bénévolat dans les ONG. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est comment est-ce que, tout en restant engagé, tout en étant préoccupé de savoir comment on embarque une jeune génération avec soi, comment on lui donne le sens du collectif, le sens de l'universel et tout ça, enfin ce dont notre monde va avoir besoin, eh bien on choisit l'endroit où c'est le plus efficace de le faire en ce moment, et c'est cet endroit-là.
Dans vos engagements, il y a évidemment un certain nombre de convictions, une fidélité à... Quand on regarde votre parcours, il y a toujours aussi ces enjeux de la compréhension de la complexité, donc de l'apprentissage, donc de la formation. Et je sais que vous avez récemment sorti un ouvrage qui s'appelle Le ghetto scolaire. Rien que le titre raconte un petit peu ce que vous voulez dire. Pourquoi est-ce que c'est toujours aussi important pour vous que la formation, que l'apprentissage, que le modèle d'éducation perdure et soit efficace en fait? À quoi ça sert aujourd'hui?
Je le disais il y a deux jours, j'étais dans une réunion publique à Lyon, à l'ENS Lyon. En fait, moi, vous savez, j'ai été ministre de l'Éducation, et s'il y a une chose qui m'a vraiment particulièrement frappée, c'est que je me suis dit, tout responsable politique qui a été ministre dans ce ministère, et qui a vu logiquement la même chose que ce que j'ai vu, c'est-à-dire visiter des tas d'établissements scolaires différents en France, vu les différences, les inégalités incroyables d'un territoire à l'autre, vu la concentration d'un certain type de population dans certains établissements ségrégés, précarisés.
Parce que vous appelez souvent la réalité inégalitaire de notre pays.
La réalité inégalitaire de notre pays. Je me suis dit donc, tout ministre qui a vu ça, et ils l'ont forcément vu, normalement, ne devrait plus endormir, en fait, devrait être absolument obsédé par ce sujet-là, ne devrait plus se prêter à tous ces débats répétitifs, complètement à côté de la plaque, sur, je sais pas, une virgule dans un programme, l'uniforme scolaire, je sais pas quoi. C'est scandaleux en fait. Tout cet accessoire qui prend toute notre bande passante dans le débat éducatif, alors que le vrai scandale, il est là, dans cette inégalité territoriale, ces inégalités de destin entre les gamins et cette ségrégation qui crée du séparatisme entre les établissements scolaires. Et donc, du coup, en sortant de ce ministère, il se trouve que moi, quand j'étais en responsabilité, j'avais lancé en 2015 un appel à projet aux collectivités territoriales, en l'occurrence les départements qui ont la charge des collèges, en leur disant, écoutez, venez, on va construire ensemble des solutions pour remettre de la mixité sociale dans vos collèges, mais des solutions pas uniformes, plaquées du haut, tout le monde pareil, non, des solutions qui correspondent à votre territoire, parce que urbain, rural, c'est pas la même chose, l'histoire, la géographie. Il y a plein de raisons qui font que les établissements sont ségrégés, qui sont pas les mêmes d'un territoire à l'autre. Donc, chacun d'entre vous, département, va, et on vous accompagne, nous, ministère, construire une solution en dentelle pour, et en parler, évidemment, convaincre les parents, etc., pour que ça marche. Il y a 82 territoires qui se sont lancés avec moi. Je me souviens, il y avait 56 collèges à l'époque, on est en 2015. Et depuis, donc, ces solutions qui ont pu parfois être une fusion de deux collèges différents où on mélange les élèves, qui ont pu parfois être le fait de redessiner une carte scolaire pour la rendre plus large et permettre à des élèves d'aller un peu plus loin, etc. Enfin, il y a plein de solutions. Elles ont été donc expérimentées dans ces territoires et elles ont été, à ma demande, suivies par des chercheurs qui ont, pendant 7 ans, accompagné la démarche en évaluant la cohorte d'élèves concernés pour voir ce que ça donnait. Ces chercheurs, ils ont rendu leur conclusion au printemps 2023, donc l'année dernière. Moi, j'étais plus ministre depuis. Et leurs conclusions sont incroyables. Ils disent, en fait, c'est ultra positif. Parce que dans la façon dont ça a été fait, en associant les parents, etc., il n'y a pas eu de fuite vers le privé, même quand on a pris des décisions qui pouvaient parfois sembler menaçantes pour certains, etc., il n'y a pas eu de fuite vers le privé. Dans les résultats académiques que ça donne quand on teste les élèves qui ont été ainsi mélangés, en fait, les résultats sont meilleurs. Et dans les compétences qu'on va appeler rapidement psychosociales, c'est-à-dire le climat scolaire, comment est-ce que les élèves se projettent par rapport à l'avenir dans la société, comment est-ce qu'ils font preuve entre eux de coopération, d'esprit de solidarité, etc. C'est tout bénef, il y a une progression incroyable. Cette évaluation scientifique, quand elle sort au printemps 2023, je me dis, elle est tellement formidable et c'est tellement rare en éducation, c'est tellement rare d'avoir de bonnes nouvelles, on a l'impression juste de voir les rapports PISA dire que c'est toujours pire. Là, on a une super bonne nouvelle, il y a un truc qui peut marcher.
Et personne n'en a parlé.
Et en fait, les gens n'en parlent pas. Et donc, je me suis dit, je vais écrire un livre là-dessus. Voilà.
Très, très intéressant et vraiment, on y découvre beaucoup de choses parce que ça déconstruit aussi un certain nombre d'idées reçues et d'a priori, vous évoquez des pistes et les possibilités de réussir cette mixité sociale. La question qui me venait et que peut-être se posent certains auditeurs, c'est que quand on regarde, depuis 30 ans, l'évolution de l'éducation nationale, dont chaque Premier ministre ou Président nous dit qu'elle est une priorité, et encore Gabriel Attal, lorsqu'il était ministre il n'y a pas longtemps, qu'est-ce qui peut expliquer, selon vous, qui connaissez bien cette machine et qui avez vu qu'il y avait des solutions, pourquoi est-ce que c'est aussi difficile, aussi long? Est-ce que c'est un problème de moyens, de budget, de volonté, de transversalité ministérielle? Pourquoi est-ce qu'on a autant de mal et que c'est toujours encore un sujet?
Vous m'avez demandé d'être le plus franche possible,
oui,
n'est-ce pas, dans cet entretien.
Avec plaisir.
Je pense sincèrement que tout le monde n'a pas une authentique conviction que l'éducation c'est essentiel et que vraiment c'est ce morceau de phrase qui compte. Chaque enfant est éducable. Voilà. Je pense vraiment que, en fait, s'il fallait dessiner une frontière entre,
voilà. C'est ceux qui ont l'intime conviction qu'on peut changer la vie de n'importe quel enfant parce qu'il le mérite et qu'il le peut, et ceux qui se disent c'est déjà trop tard ou c'est compliqué.
Oui, et puis voilà. Puis tout le monde n'a pas vocation à, etc. Tout ce discours qui conduit ensuite à être malthusien dans l'accès à l'enseignement supérieur, à dire tout le monde n'a pas vocation à aller dans l'enseignement supérieur.
Sur des problèmes de genre aussi, sur la manière dont on oriente les garçons, les filles, etc.
Exactement, parce que les filles et les garçons, finalement, ils ont des rôles différents dans la société. Pourquoi vouloir absolument qu'ils se ressemblent? C'est ce même discours qui conduit à vouloir des classes de niveau, parce que vous comprenez, il y a les faibles et les forts, alors pourquoi les mélanger ensemble? Ça retarde l'effort. Enfin, je veux dire, en partant du principe qu'en fait, jamais un élève peut progresser, changer de statut, etc. Enfin, vraiment, tout ça est imprégné de cette idée que, en réalité, tous les enfants ne sont pas pareillement éducables. Et donc, pour répondre à votre question, déjà, il y a ça. Ensuite,
il y a des problèmes de moyens peut-être ou de vraie reconnaissance des enseignants.
Absolument. Il y a une complexité inhérente au ministère de l'Éducation nationale qui est que quand vous avez 1 million de personnel, cette question des moyens, il faut vraiment l'assumer quoi. Soit vous assumez et je sais que ça peut paraître loin pour certains, mais quand en 2012, quand on arrive aux responsabilités, on dit on va créer 60 000 postes de professeurs. On assume. Enfin, je veux dire, on en refait le budget numéro 1 de la nation, devant la défense, devant les intérêts de la dette, etc. Alors que c'était plus le cas avant. On assume de consacrer de l'argent. Et le problème, c'est que si vous assumez pas, vous faites des demi-mesures, c'est jamais à la hauteur. Donc nous, on avait créé des postes. Là, la question qui se pose, c'est évidemment la rémunération et il faut assumer de mettre aussi des moyens considérables.
Et la reconnaissance, parce que derrière, il y a évidemment concrètement l'argent, mais il y a aussi la reconnaissance. Avant, être enseignant, c'était quelque chose. Aujourd'hui, on a l'impression que ça compte moins.
Bien sûr, mais vous savez que la question de la rémunération compte aussi s'agissant de reconnaissance. C'est-à-dire que, en gros, faut pas sous-estimer le fait que les parents, entendent à longueur de journée que les enseignants sont mal payés, sont très peu payés. Les enfants l'entendent à longueur de journée. Donc, le regard qu'ils portent sur leur enseignant aussi est impacté par ça. Et au-delà, moi, il y a une chose qui me frappe, c'est le prof bashing permanent, franchement, dans le débat public. C'est très compliqué, ça. Et il faut vraiment que collectivement, on comprenne que nos professeurs ont besoin de nous, et c'est rarement le cas.
Eh bien, c'était bien d'en parler. J'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent à lire ce livre avec attention. On reparlera de politique, de la région et des européennes dans une troisième partie de notre émission. À tout de suite. On se retrouve pour une troisième et dernière partie de notre émission L'Invité Politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1ère. Et toujours avec vous, Najat Vallaud-Belkacem. Je rappelle que vous êtes présidente du groupe au Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes. On a parlé de votre mission, de vos engagements à la Direction France de OAN, cette ONG, de votre ouvrage sur la dimension scolaire, l'enseignement, l'éducation. On va parler aussi un petit peu de votre mandat et ce mandat régional. Ma première question, elle est, est-ce que vous qui avez connu, un mandat à la mairie de Lyon, ailleurs, est-ce que c'est pas un peu compliqué ce mandat régional parce que c'est une institution, une collectivité que les gens continuent de méconnaître et dont on sait pas exactement toujours, sans faire injure, à quoi elle sert exactement? Est-ce que vous pourriez nous le dire et nous dire pourquoi c'est quand même important à cet endroit?
Si, honnêtement, je suis complètement d'accord avec vous. Alors, je sais que vous attendriez de moi que, comme conseillère régionale, et d'ailleurs, c'est pas la première fois que je suis conseillère régionale, que je défende à fond cette institution. Évidemment qu'il s'y passe des choses absolument majeures et qui d'ailleurs financièrement représentent des montants absolument phénoménaux parce que quand on est en charge, comme vous le savez, que ce soit des transports, que ce soit des lycées, que ce soit de l'aménagement du territoire, ça fait quand même beaucoup de sujets, donc beaucoup d'argent.
Et ça impacte le quotidien des gens.
Sauf que là où je vous rejoins, c'est que, en fait, les régions, je ne suis pas sûre qu'elles soient identifiées par les citoyens. Et c'est très problématique parce que, ce faisant, les citoyens ne perçoivent pas à qui s'en prendre lorsque ça ne va pas ou qui remercier lorsque ça va, sur les enjeux qu'on vient d'évoquer. Par exemple, la formation des chômeurs, des choses comme ça, tout ça est dans l'escarcelle de la région. Donc, si c'est bien fait, ça vous change la vie. Si c'est mal fait, s'il y a des coupes sombres, comme c'est le cas avec Laurent Wauquiez, dans cette formation, comme par exemple dans le domaine de la culture.
Donc, on parlera, mais
donc,
pourtant,
quand c'est mal fait,
il communique beaucoup, puisqu'il met un certain nombre de panneaux expliquant tout ce que fait la région à tel endroit, etc. Ça ne suffit pas, visiblement.
Oui, mais vous savez, moi j'ai toujours dit, sur un autre sujet, que le contraire de l'information, ce n'est pas le manque d'information, c'est l'obésité informationnelle. C'est ça le contraire de l'information. C'est-à-dire, si vous voulez perdre complètement, noyer complètement quelqu'un, vous vous faites de la communication sur tous les sujets, tout le temps, comme ça vous êtes sûr qu'il ne retient rien, qu'il est dans la confusion totale. Et donc, M. Wauquiez, il fait de l'obésité communicationnelle avec les fonds de la région, en se mettant quand même beaucoup en scène à titre personnel, comme si c'était son argent propre. Et d'ailleurs, de temps en temps, l'argent de la région, il s'en sert comme de l'argent, comme si c'était de l'argent de poche. On va y revenir dans un instant, puisqu'il a plusieurs affaires au cou, entre ses dîners des sommets à 150 000 euros, ses emplois fictifs, etc. Donc, Il y a vraiment un sujet de là encore d'authenticité. Tout à l'heure, je parlais de sincérité, d'authenticité. Mon problème principal avec Monsieur Wauquiez, c'est que je ne le sens pas sincèrement intéressé par le bien commun. Alors, du coup, il est en train de gérer cette région, cette collectivité, comme il pourrait être en train de gérer une entreprise, que sais-je, avec des pratiques très clientélistes, avec une capacité à se maintenir au pouvoir, y compris par la menace. On l'a bien vu pendant la dernière campagne régionale, quand il menacer des élus. Je me souviens, moi j'étais candidate à l'époque, parfois il m'arrivait d'avoir programmé de me rendre dans un territoire, d'y être accueillie par des élus. Ces derniers recevaient un coup de fil de M. Wauquiez ou de ses sbires, lui disant si tu accueilles cette opposante, tu n'auras évidemment plus de subvention de la région pendant X années. Donc c'est ça,
c'est
son mode de fonctionnement.
C'est pas votre conception de la politique, évidemment.
Non, pas
Est-ce
du
que
tout.
On peut considérer que vous êtes toujours, ça a toujours été compliqué, hein, votre relation, et vous avez toujours une opposition très claire. Vous êtes la première opposante aujourd'hui à Laurent Wauquiez, quelque part. Ou du moins dans l'esprit, y compris du public, peut-être par votre notoriété et votre parcours. Ou...
Eh ben, c'est vrai qu'il y a une espèce de parallélisme des formes qui est intéressant, parce que on a été tous les deux, à des moments différents, évidemment, lui sous Nicolas Sarkozy, moi sous François Hollande, en charge de l'enseignement supérieur, par exemple. Donc,
ça crée des comparaisons, des confrontations, un peu.
Exactement. Et puis, en même temps, on appartient aussi, je crois, à la même génération, sauf erreur de ma part. N'est-ce pas?
Oui, à peu près.
Donc oui, bien sûr, je vois comment est-ce que cette idée peut venir, mais cette assemblée régionale, elle est composée quand même de beaucoup d'opposants, il faut le dire, parce que les écolos, qui se font d'ailleurs très régulièrement taper dessus avec beaucoup de virulence par Laurent Wauquiez.
Fabienne Grébert, je crois.
Absolument.
D'ailleurs, qui s'est en charge de ça.
Et c'est pas simplement pour la forme, c'est-à-dire que quand vous voyez les politiques adoptées par Laurent Wauquiez, elles sont très anti-écologiques, hein. Vraiment, c'est quelque chose qui nous heurte profondément.
Ah,
vous
voilà.
Avez suivi sa volonté de vouloir se retirer notre territoire de la loi ZAN. Bon, il a été il a été défait par
on
le gouvernement.
De deux, trois sujets, mais c'était intéressant de voir ça. Une micro-question peut-être, à la fois un peu technique, mais moi qui m'intéresse, puisque vous l'avez connu, vous l'avez rappelé avec François Hollande. Le fait que la région soit pas forcément une région accessible et compréhensible par le plus grand nombre, est-ce que c'est pas un peu lié, peut-être, avec le recul, au fait d'avoir fusionné toutes ces régions et d'en avoir fait des gros mastodontes sous François Hollande? C'est pour ça que j'y pense, etc. Mais est-ce que finalement c'était une bonne idée, est-ce qu'on a bien mutualisé, ou ça a peut-être un peu participé à ce que vous évoquez?
Alors, je m'exprime à nouveau ici, à titre personnel. Moi, je trouve que c'était vraiment une erreur. Franchement, s'il fallait
en identifier
quelques-unes d'erreurs, je pense qu'on a été mal inspiré quand on a fait ça. Enfin,
mais
bon, j'avoue que c'était pas mon idée non plus.
Mais c'était pas forcément peut-être une urgence non plus à ce moment-là.
Non, mais en fait, c'était soit, en effet, il y a une question de temporalité, soit on prenait le temps de s'assurer que les conditions étaient réunies pour faire de ces grandes régions quelque chose de totalement mutualisé, qui allait faire des économies, etc. Soit on faisait rien du tout, mais la façon dont ça a été fait, et aujourd'hui, en fait, quel effet ça a eu de créer des baronnies, ça c'est certain, et honnêtement ça vaut pour toutes les régions, hein, des énormes baronnies avec des gens à la tête de ces régions qui, même s'ils font n'importe quoi, très mal leur travail, sont quasiment indéboulonnables parce
que... Et ont presque tous une ambition nationale, quelque part.
Absolument.
Je pense à Xavier Bertrand, à Carole Delga...
Mais j'insiste juste sur le indéboulonnable parce que je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, en fait, dans cette collectivité très compliquée à comprendre pour le citoyen, etc., sur un territoire aussi vaste, en l'occurrence Auvergne-Rhône-Alpes, qui est la seule personne qui, raisonnablement, a le temps de sillonner l'intégralité du territoire parce que il ou elle a les moyens qui vont avec, c'est-à-dire un chauffeur, etc. Le président de la région. Donc, en fait, c'est le seul qui, raisonnablement, peut être vu dans le Cantal,
dans l'Allier,
à Grenoble, etc., dans la même semaine, puisqu'il a les moyens de le faire. Et donc, c'est en ça que c'est très compliqué pour une opposition d'exister dans ces conditions, et je pense que ces grandes régions, elles sont problématiques pour ça. Et puis, deuxièmement, on le voit en tout cas dans notre région à nous, il n'y a pas eu de mutualisation parce que il n'y a pas non plus de volonté politique de M. Wauquiez de faire en sorte que les acteurs travaillent ensemble. C'est pas du tout ça, son ADN.
Alors, il y a bien un sujet d'ailleurs sur lequel on sent que peut-être c'est un peu la volonté d'éviter que les personnes travaillent ensemble, c'est sur le sujet de la culture. Vous avez fait un communiqué de presse, vous vous êtes exprimé. Est-ce que c'est pour vous, la manière de gérer les subventions, la politique culturelle, la marque de fabrique de Laurent Wauquiez? Est-ce que c'est ça qui vous énerve le plus ou il y a d'autres sujets avec lesquels vous êtes aussi en désaccord?
Oh, il y a tellement de sujets, vous savez, je vais parler de culture dans un instant, mais pour vous en donner un exemple, il y a un certain nombre de lycées sur notre territoire qui ne sont pas du tout dans un bon état. Les élèves, les professeurs, etc., nous envoient des photos nous montrant qu'il y a des problèmes d'entretien, que l'eau passe par les toits, etc., des choses comme ça. On attire l'attention de la région. Vous savez que depuis que Monsieur Wauquiez est président de région, contrairement à ce qui se faisait par le passé, les élus d'opposition ne peuvent plus siéger dans les conseils d'administration des lycées. Ce qui est complètement dingue, hein. Et donc, du coup, on a les informations qui nous viennent directement des acteurs. On attire l'attention de la région. Monsieur Wauquiez prétend que tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà, plan Marshall, lycée, grands mots qui généralement ne correspondent à rien. Alors on demande que soit montée une mission sur ce sujet pour évaluer la situation. Elle nous est refusée. Donc finalement, on crée à plusieurs groupes d'opposition une mission citoyenne où on va recueillir nous-mêmes la parole de lycéens, de d'enseignants, etc., de ces établissements scolaires, et on rédige un rapport qu'on rend, etc. Bon, tout cela. Pourquoi? Bah tout cela pour rien du tout, parce que Monsieur Wauquiez, en fait, la concertation, le fait de travailler en collectif, le fait de s'appuyer sur le terrain, le fait de s'intéresser véritablement à ce qui se passe plutôt que à des grands mots et à des grands discours, bah ça lui passe complètement à côté. Donc c'est cette gouvernance là, moi, qui me va pas du tout. Et s'agissant de la culture, pourquoi est-ce qu'il s'en prend à ce point aux acteurs culturels? Vous savez, je suis amenée, j'ai cette chance à sillonner quand même beaucoup la France, au-delà de cette région et au-delà de notre capitale. Je vous assure que je n'ai pas encore trouvé un seul territoire dans lequel on se comporte avec cette légèreté-là, cette violence-là plutôt, avec les acteurs culturels. Tout le monde en est estomaqué. 4 millions d'euros qui ont été retirés dans l'année 2022-2023 aux acteurs culturels. Et cette année-là, se sont rajoutés, donc c'était déjà une centaine de structures qui avaient été touchées. Et là, cette année, se sont encore rajoutées 30 nouvelles structures. Donc, on atteint des sommets inouïs.
Mais est-ce que c'est une forme, j'allais dire, je mets les guillemets, de police de la pensée? C'est-à-dire que c'est pour des considérations politiques, idéologiques, qu'on enlève ces subventions, ou on ne sait même pas exactement pourquoi?
Si je devais résumer, c'est que je pense que Laurent Wauquiez, en fait, tout simplement, lorsqu'il fait le constat qu'il ne peut pas acheter les gens en question ne l'intéressent plus. Non, mais c'est aussi terrible que cela. C'est ça que j'appelle le clientélisme, etc. C'est-à-dire que, à un moment donné, les acteurs culturels, et franchement, merci à eux pour cela. Heureusement, ils ont cette espèce d'indépendance d'esprit, de création, et c'est ce qu'on attend d'eux, d'une certaine façon, de ne pas vouloir se plier à tout prix pour dire à Laurent Wauquiez ce qu'il a envie d'entendre, et notamment, vous êtes le plus beau des hôtes de. Bref. Donc, du coup, on l'a vu avec notamment Joris Mathieu, le directeur du théâtre Nouvelle Génération de Lyon, qui, pour avoir simplement écrit ou dit quelque part dans un journal que
ça le mettait en difficulté,
les décisions de la région, s'est vu retirer du jour au lendemain 150 000 euros. Mais vous vous rendez compte de ce que ça signifie? Ça veut dire que Laurent Wauquiez, quand il prend ce type de décision, il sait très bien que ça va mettre des gens à la rue, au chômage. Donc des familles derrière en difficulté. Et il sait très bien que ça veut dire que toute cette démarche de démocratisation de la culture, elle va être arrêtée en plein vol, qu'il y a des gens qui n'auront plus accès à certains spectacles. Alors il dit, oui, non mais attendez, moi je coupe des subventions pour les lieux de culture qui sont en ville.
Et je les mets dans les territoires.
Mais enfin, c'est une blague ou pas? Alors nous, on avait fait la liste des compagnies ou des festivals, etc., qui étaient affectés, y compris en ruralité. Et vous voyez par exemple un festival qui s'appelle Les Lectures sous l'Arbre, qui est entre l'Ardèche et Chambon-sur-Lignon pourtant, a fait les frais aussi des coupes de Monsieur Wauquiez. Enfin, il y en a plein d'autres exemples. Mais tout cela n'est pas sérieux, et je pense que c'est tout simplement un mépris de cette philosophie politique qui est quand même l'ADN normalement du responsable politique, quel qu'il soit, de droite ou de gauche, qui est de dire on va émanciper les gens. Émanciper les gens, ça se fait par l'éducation et par la culture, donc Monsieur Wauquiez, de tout ça, n'a que faire.
Voilà, et on comprend mieux pourquoi c'est difficile peut-être avec lui. On aurait pu parler de beaucoup de sujets, juste peut-être une phrase sur les européennes qui est pourtant un enjeu fondamental. Raphaël Glucksmann était, je crois, à Lyon pour une première réunion publique. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. D'abord, est-ce que les européennes, c'est une vraie élection importante et est-ce que c'est un bon candidat pour votre famille politique?
Oui, je vais le faire en une phrase, comme ça on perdra pas de temps. C'est un bon candidat, honnêtement, je pense que...
C'est bien que tout le monde se rassemble, y compris le PS, oui. Autour d'une seule candidature, c'est ça aussi l'idée derrière.
Oui. Et puis c'est bien aussi de faire preuve de sérieux, d'aller chercher quelqu'un qui du coup a démontré des compétences, s'y connaît, a vraiment œuvré au sein du Parlement européen. Non, je suis assez contente du visage que donne à voir le Parti Socialiste en ce moment. Bon. Faut continuer.
On vous réinvitera parce qu'il y aurait plein de sujets sur l'avenir du Parti Socialiste, sur vos ambitions peut-être en 2026, parce que vous nous avez dit que vous n'avez pas quitté la politique. On se quitte traditionnellement avec deux petites questions un peu plus personnelles. D'abord, si vous avez un livre de chevet en ce moment, qu'est-ce qui vous inspire quand vous prenez un peu de temps de recul sur la vie publique que vous avez?
Alors, j'ai un livre de chevet en ce moment. Je ne sais pas si vous le connaissez.
C'est drôle parce que ça avait un lien avec Lyon d'ailleurs un peu hasard.
Absolument, absolument. En fait, c'est un livre qui s'appelle, c'est un roman, parce que j'avoue que je suis beaucoup plus roman moi, surtout le soir avant de dormir.
Après les rapports de toute la journée.
C'est clair. C'est un livre qui s'appelle Fantastique histoire d'amour et qui est un livre de Sophie Divry que je ne connaissais pas, j'avoue. En fait, je suis tombée un peu par hasard sur ce livre et je l'ai pris. Et quand je l'ai pris, l'histoire m'avait plu. J'avais même pas noté.
Quand même.
Oui, je pense que c'est sur le titre. Et j'avais même pas noté, pour être franche, que l'histoire se passait à Lyon.
Mais c'est incroyable.
Donc, du coup, je commence à le lire. Donc, c'est une très belle histoire. En fait, c'est vraiment, je vous le recommande, Divry, D-I-V-R-Y, parce qu'elle arrive à la fois à parler d'une histoire d'amour, mais surtout à raconter le quotidien d'un inspecteur du travail. Son héros, Bastien, est un inspecteur du travail. Et d'une journaliste scientifique. Voilà, je vous le recommande.
Très bien teasé, ça donne envie. Et peut-être, pour ce qui était aussi un morceau de musique, qu'est-ce que vous avez dans votre playlist qui vous inspire ou vous motive en ce moment?
Alors, je suis contente que vous me posiez aussi la question, parce que en ce moment, je me dis, mais c'est incroyable, cette jeune génération d'artistes féminines, notamment, pardon, je ne fais pas de... C'est discrimination genrée, mais vraiment, il y a toute une nouvelle génération de jeunes femmes qui sont magnifiques, qui chantent super bien. Alors, je vais vous en citer une pour laquelle j'ai une vraie passion en ce moment, qui s'appelle Colline Rio, R-I-O, le nom de famille. Magnifique, voilà. Absolument magnifique. Écoutez tout son album, vous allez comprendre.
On va découvrir avec grand plaisir. Merci infiniment d'avoir trouvé le temps d'être à notre micro. C'était un vrai plaisir. Bonne continuation dans vos activités. Vous reviendrez nous voir pour parler de la suite. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel invité. Alors, le hasard de la programmation fait que c'est quelqu'un que vous connaissez, puisqu'on recevra un conseiller régional aussi, Andrea Cotarac, le président du RN. Merci à vous.
Merci.
Et à très bientôt. Au revoir.
C'était l'invité politique du samedi sur Lyon Première, en partenariat avec Lyon Positif, la plateforme inspirante des acteurs engagés dans la transition du territoire. Retrouvez tous les invités politiques en podcast sur lyonpremière.fr et lyonpositif.fr. Écoutez votre radio Lyon Première en direct sur l'application Lyon Première, lyonpremière.fr et bien sûr à Lyon sur 90.2 FM et en DAB+.
Lyon Première.